Bonjour, c'est Axel de Tarlé. Vous allez écouter C'est dans l'air l'invité. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite.
Jean Garrigue, bonsoir. Vous êtes historien, président du comité d'histoire parlementaire et politique. Vous êtes l'auteur des Perdants magnifiques de 58 à nos jours aux éditions Talendier, avec un chapitre dans votre livre consacré à Jacques Delors qui nous a donc quittés. Jacques Delors, l'homme qui aurait pu être président, encore eût-il fallu qu'il se présentât. Je vous propose, Jean Garrigue, de revoir cette scène culte de la télévision française. Nous sommes le 11 décembre 1994. Jacques Delors est invité de 7 sur 7. Et à la toute fin de l'émission, au bout du suspense, Anne Sinclair lui pose la question que la France entière attend. On regarde l'extrait.
Bien, Jacques Delors, je vous repose ma question du début de l'émission. Est-ce que vous êtes, oui ou non, candidat à l'élection présidentielle ?
Anne Sinclair, par exception, je vais lire. C'est ce qui est rare chez moi, puisque même mes exposés, je les fais d'habitude à partir de peu de notes. Mais c'est trop important. Comme beaucoup le savent, je n'ai jamais organisé ma vie en fonction d'une carrière à réaliser ou de poste à conquérir. J'ai toujours essayé de choisir de travailler, de militer là où j'estimais être le plus utile pour les valeurs que je défends, pour la société et pour mon pays. Et c'est dans ce même esprit que j'ai orienté mes réflexions de ces derniers mois. J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République.
Ne pas être candidat, vous vous souvenez de cette scène?
Bien sûr. Bien
13
sûr.
Millions de Français l'avaient vu.
Bien sûr. C'est un moment très très fort de la campagne, parce qu'il faut rappeler quand même que Jacques Delors était un des favoris, et sans doute le favori de l'opinion publique.
Il peut-être gagner cette élection.
Il avait de fortes chances, en tout cas, parce que en tant que social-démocrate, modéré, pragmatique, et avec l'aura qui était la sienne, il était à même d'amener au Parti socialiste toute une frange de l'électorat de centre-gauche, voire même de centre-droit, qui aurait pu lui assurer la victoire éventuelle sur le candidat de la droite, qui, à l'époque, était potentiellement Édouard Balladur.
Pensait-il d'ailleurs ?
Pensait-il, ouais. Pensait-il. Mais c'est peut-être ça aussi qui lui semblait difficile. La principale raison, c'est quand même qu'il n'était pas du tout assuré d'avoir un soutien, je dirais, cohérent et homogène de la part de ses amis socialistes, dont beaucoup le critiquaient.
Le trouvant trop. Parce qu'on n'a jamais su tellement pourquoi il n'y est pas allé. C'est ce que disait ce matin François Bayrou. Il a dit il avait vu Emmanueli qui lui avait dit non, mais. Moi, je te mettrai à l'Assemblée nationale des socialistes old school, purs et durs, qui vont te mener la vie dure.
Ben, il le disait, il n'était pas du tout sûr d'avoir une majorité homogène à l'Assemblée. Ouais. Et sans majorité, on voit ce que ça donne aujourd'hui, c'est quand même compliqué. Il aurait eu des frondeurs, et justement des Henri Emmanueli, des Laurent Fabius et autres, qui lui auraient mis vraiment des bâtons dans les roues.
Et sa fille, il a dit en politique, ma fille est meilleure que moi.
Ben, c'est vrai que sa fille. Potentiellement, elle aussi, elle aurait pu devenir la candidate du Parti socialiste et potentiellement présidente de la République. D'ailleurs, c'est intéressant parce que au moment de la compétition entre Martine Aubry et François Hollande pour la candidature socialiste, après le retrait de Dominique Strauss-Kahn, on est en 2011, Jacques Delors a choisi Martine Aubry, alors que François Hollande avait été son compagnon de route. Il avait animé les clubs qu'on disait à l'époque transcourants, qui s'appelaient les clubs témoins, qui soutenaient Jacques Delors pendant les années 80-90.
Il faut dire qu'il avait choisi sa fille plutôt que ses idées.
C'est ça, hein. Il choisit le sang, l'héritage plutôt que l'héritage politique
qu'incarnait mieux Hollande. Peut-être François Hollande. Il était auréolé en 95 de 10 années passées à la tête de la Commission européenne. À l'époque, ça vous valait des fleurs. On l'avait dit que c'était le dernier grand bâtisseur de l'Europe. C'est ce que retient la presse aujourd'hui, même la presse britannique. L'euro, c'est lui, on peut dire.
Ah oui, c'est incontestable que pendant les 10 années qu'il a passées à la présidente de la Commission européenne, il a été le moteur de l'Europe et l'incarnation de l'Europe. C'est encore plus que le moteur, donc celui qui va faire l'euro, qui va amener Maastricht, etc. Il est une incarnation. C'est quelque chose d'ailleurs qu'aujourd'hui on a perdu. On peut se demander aujourd'hui qui incarne vraiment l'Europe. À l'époque de Jacques Delors, c'était lui.
L'Europe, et alors, il l'incarnait tellement qu'il faisait la une des tabloïds britanniques. On va revoir cette fameuse une de 1990 du Sun. « Up yours, Delors », qu'on traduirait par « va te faire voilà, ben c'était à la une. Ouais. D'ailleurs, ça interroge, pourquoi très tôt les Britanniques étaient-ils à ce point plein de ressentiment ou d'opposition à l'égard de cette Europe bruxelloise dont ils étaient partie intégrante.
Exactement, mais bon, parce qu'il y avait toujours eu cette réticence de la part des Britanniques qui ont mis longtemps à y entrer dans cette Europe, et puis parce qu'il incarnait aussi le couple franco-allemand. Il ne faut pas oublier qu'en 85, quand il est nommé président de la Commission européenne, c'est beaucoup plus grâce à Helmut Kohl qu'à François Mitterrand, qui avait quelques réticences envers Jacques Delors. Donc il y avait ce pilier franco-allemand, et ça, pour les Anglais, ce n'était pas terrible.
C'est Bismarck qui disait dans une relation à trois, il faut toujours être l'un des deux.
Exactement.
Alors, du coup, Delors, qui regrettait d'ailleurs que l'Europe se soit arrêtée à une union monétaire, il voulait l'union politique.
Oui. Parce qu'il faut pas oublier, je dirais, une union politique et une union sociale aussi. En 2004, il signe un manifeste qui avait été lancé par Pierre Larouturou avec Michel Rocard pour une Europe sociale, un traité d'Europe sociale. Il ne faut pas oublier que Jacques Delors a commencé sa carrière comme syndicaliste. Hein. C'est un des bâtisseurs de la CFDT. C'est un syndicaliste chrétien. C'est très important aussi pour expliquer sa carrière et sa démarche. Quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux questions au monde du travail. Il est d'ailleurs le concepteur de la nouvelle société auprès de Jacques Chaban-Delmas entre 1969 et 1972. C'est donc quelqu'un qui est très intéressé par ces questions. Et alors, en plus, il a cette volonté farouche, chevillé au corps, de construire une Europe politique et même fédérale.
Alors, il vient, vous l'avez rappelé, du centre, hein, avec Chaban-Delmas, et il rejoint François Mitterrand en 80. François Mitterrand en 80, programme très à gauche, nationalisation, retraite à 60 ans, une politique de relance par les salaires. Et alors, en 83, les caisses sont vides. Et là, il y a deux options qui se présentent. Il y a l'option de ceux qui disent qu'il faut se libérer de la contrainte internationale pour que puisse s'épanouir, je cite, hein, pour que puisse s'épanouisse la fleur socialiste. En gros, ça voulait dire que le franc qui venait de dévaluer trois fois face au Deutsche Mark sorte du SME, du système monétaire européen. En 83, on aurait pu sortir de l'Europe.
Oui, et ça, Jacques Delors, évidemment, n'en voulait à aucun prix. Il s'est beaucoup battu. Il s'est battu d'ailleurs depuis quasiment la fin de l'année 81. Où il demandait une pause dans les réformes, parce que précisément, il voyait qu'on allait sortir de facto de ce système monétaire européen, que le franc était attaqué, qu'on n'allait pas tenir sur le plan financier et monétaire, et même sur le plan économique. Et donc, il était en lutte, on peut dire, permanente, avec ce qu'on appelait les visiteurs du soir, notamment les Laurent Fabius et autres, Jean-Jacques Servan-Schreiber d'ailleurs, qui conseillaient à Mitterrand de sortir du serpent monétaire européen. Donc, et finalement, grâce au soutien de Pierre Mauroy, Premier ministre, en mars 1983, voilà, je retrouve, il obtient ce fameux plan de l'or.
Et finalement, est-ce qu'en 83, il n'a pas sauvé l'Europe en faisant en sorte que la France, pays fondateur, reste dans ce qu'on appelait à l'époque la communauté économique européenne?
Mais sûrement, parce que si on sortait, et si l'un des deux piliers de l'Europe en sortait, ouais, c'était quand même mettre l'Europe en danger. Il la sauve, et en même temps, il sauve aussi, quelque part, le premier septennat de François Mitterrand, parce que la question financière était quand même très, très compliquée à résoudre. Le déficit avait augmenté de 30%, le déficit public. Donc, il a donné cette caution, je dirais, de pragmatisme, de réalisme, qui a permis aussi de limiter les dégâts produits par la politique initiale de relance.
C'est vrai qu'on le présente aujourd'hui comme le dernier des bâtisseurs de l'Europe. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression que Ursula von der Leyen ou même nos chefs d'État sont beaucoup plus dans la gestion des crises que de bâtir l'avenir, bâtir l'euro, Erasmus, Schengen, l'UE?
C'est vrai qu'il manque un souffle, il manque une vision que lui a pu incarner après Jean Monnet, après Robert Schuman. J'allais dire qu'aujourd'hui, on retrouverait éventuellement cette vision chez un François Bayrou, par exemple, mais sachant que François Bayrou est écarté du pouvoir et n'a pas les moyens politiques d'incarner cette vision, lui avait cette vision, cette incarnation, ce qui fait de lui, véritablement, il a été d'ailleurs récompensé à maintes reprises pour être un des pères de l'Europe, c'est incontestable.
Bien, merci beaucoup, Jean Garrigue, d'être venu nous parler de Jacques Delors, qui nous a donc quitté. Je rappelle votre livre, hein, Les perdants magnifiques de 58 à nos jours, avec tout un chapitre consacré à Jacques Delors, le bâtisseur, l'européen. Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air, qui revient sur nos nouvelles habitudes de consommation après une année éprouvante en termes de pouvoir d'achat. C'est dans l'air, qui est intitulé ce soir Habitat, Casino, Naf-Naf, l'hécatombe des enseignes.
Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.